la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Salut chers lecteurs, chères lectrices, chers auditeurs et chères auditrices, on s'était quitté en juin dernier au pays du soleil levant pour 2 mois de pause estivale, et qui dit pause, soleil et farniente, dit littérature. Et ce qui est bien avec les livres d'été, c'est que les thèmes sont nombreux et variés, habituellement légers mais pas toujours. Alors on a décidé pour cette première de la rentrée 2022-2023 de vous présenter nos lectures estivales. On va ici parler de KPDP, de féminisme, de meurtre, de spiritisme dans l'Amérique puritaine du 19e siècle, de milices trumpiennes dans l'Amérique profonde, d'adolescentes qui ne veulent plus retourner en classe, de philosophie, de grands espaces, d'hippopotames qui ont bouilli vif dans leur piscine. Et oui, l'été, cette période de vacances formidable pour ceux qui n'ont pas d'enfants à gérer pendant 2 mois et demi et qui peuvent boire des livres à profusion, à satiété, je pourrais dire. Bonjour Claire.
Et bonjour.
Tu ne nous présentes qu'un livre aujourd'hui.
Oui, parce que j'ai préféré les cocktails à la lecture.
C'est bien.
Alcool.
C'est pas mal. Bonjour Pauline, comment va la Bretagne ?
Ça va super bien, il y fait beau, il y fait chaud.
Alors il faut savoir que Pauline n'a pas compris le thème, elle n'a lu que des prix Nobel de littérature. Voilà, alors oui. C'était les livres d'été, c'était pas les prix Nobel, mais pourquoi pas. Salut Valérie, Fort Boyard n'a pas coulé ?
Lui non, moi oui.
Toi oui, mais c'est bien. Alors pour cette première émission, on ne va pas forcément vous proposer des livres actuels. Chacun a cherché dans sa bibliothèque les livres qui traînaient ou des livres prêtés par des amis. Donc on va avoir de tout et de toute époque. Et on va commencer avec un livre édité en 2014 par un auteur né à Tunis, d'un père tunisien et d'une mère algérienne, publié chez Zulma. Hubert Haddad pour La théorie de la vilaine fille, Valérie.
Oui, Hubert Haddad qui est rentré avec ce livre dans mon top 5 de mes auteurs préférés. Ça y est.
Ah, quand même.
Ça faisait un moment déjà qu'il gratouillait à la porte du top 5 et là je confirme, bienvenue Hubert. Ce livre, ça faisait un moment que je l'avais dans la bibliothèque et cet été je me suis retrouvée en panne de lecture. Et donc j'ai dit tiens, je vais le lire. Je l'avais lu, on me l'avait conseillé, je faisais des recherches sur les médiums, sur les esprits, enfin je travaillais sur ça pendant un petit moment pour un projet qui n'a pas abouti. Et c'était quelqu'un qui avait fait une thèse sur les esprits, qui m'a dit en littérature je te préconise de lire Hubert Haddad, Théorie de la vilaine petite fille. Je voyais pas ce qu'un romancier pouvait m'apporter, un sujet certes spirituel mais concret en fait, sur parce que je m'intéressais vraiment à Allan Kardec, enfin des choses comme ça, et en fait cette histoire, hein, Théorie de la vilaine petite fille, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc déjà ça commence à mettre un peu le frisson sur les avant-bras, et qui est aussi à l'origine, en fait, qui retrace l'origine du spiritisme tel qu'on le connaît, tel que des fois on a joué à pratiquer dans nos greniers ou nos classes enfin nos salles d'internat quand on était interne, ou dans les anciennes orphelinats des châteaux abandonnés, Ludovic Terol.
Du côté de la Nuéjeule.
Par exemple, un soir d'hiver. Voilà, et donc Hubert Haddad a romancé un petit peu, mais plus sur la prose que vraiment sur le fond, donc l'histoire des sœurs Fox, qui vivaient donc en Amérique sur le 19e siècle. Donc on est dans une Amérique profonde, puritaine, on est dans un environnement un peu isolé, et une des filles découvre dans cette maison, en fait, commence à entendre des choses, à avoir des visions, et commence à vouloir en parler, mais on est quand même dans l'Amérique puritaine, croyante et pratiquante, donc c'était totalement impossible et inacceptable d'avoir ce genre de pensée. Donc je sais pas comment aller plus loin sans en dire trop, parce que c'est, après on rentre vraiment dans le cœur du livre, mais c'est vraiment un livre qui est une belle une belle découverte parce qu'on est à la fois sur du documentaire, puisqu'on apprend la vie des sœurs Fox, et en même temps, on est sur un roman qui peut faire peur quand on s'imagine que c'est basé d'une histoire vraie. Enfin, je vois que Ludo, tu as fait beaucoup de recherches dessus. Est-ce que tu peux confirmer mes propos?
Alors, je ne sais pas si c'est basé sur une histoire vraie, mais c'est je te crois. Par rapport à ce que tu as dit, oui, c'est sa fourmille de références historiques. Hein. Il évoque la conquête de l'Ouest, la guerre de sécession, l'inscription de plusieurs mouvements religieux et sociaux dans ce contexte particulier, finalement, qui a été la montée de l'Empire américain. Ça, l'histoire se déroule sur donc plusieurs siècles.
Oui,
comment ça se passe?
En fait, c'est sur deux générations. On commence avec la mère de, je cherche son prénom, mais je crois que je l'ai pas noté, de la jeune fille qui est plus ou moins ce qui tient le roman tout le long. C'est des noms très américains et du coup, Kate. Donc ça part de sa mère jusqu'à elle qui devient très très vieille. Donc on est sur deux générations, on est sur l'époque Lincoln. On est d'ailleurs on croise Douglas, on croise Lincoln. Dans le roman, il y a beaucoup de références à l'Amérique qu'on connaît en fait. Donc on est très vite plongé en plus grâce à son écriture. En plus il utilise un vocabulaire absolument délicieux. Enfin l'écriture elle est travaillée, elle est soignée. Il est dans mon top 5, donc je le bats un peu. L'écriture est très soignée et c'est agréable à lire, mais c'est vraiment une plongée. Enfin, moi, je me voyais dans la maison avec eux, je voyais les esprits qu'elle voyait. Enfin, c'est vraiment très, très, c'est fort de détails, sans être assommant, et vraiment avec un vocabulaire très, très bon.
Alors c'est un écrivain qui se situe dans la nouvelle fiction, ce genre littéraire, avec le travail entre l'ambivalence entre le plausible et l'inexplicable qu'on retrouve vraiment dans ce livre. J'ai lu quand même certaines critiques qui disaient que il a une évidente qualité de maîtrise de la langue française, cet auteur qui est très reconnu. Mais du coup, sur ce livre, il y a quelques critiques qui disaient que c'était quand même un style qui était ankylosé par la longueur infinie de certaines phrases, un vocabulaire truffé de mots rares, et que ça pouvait être parfois compliqué à lire.
Oui, alors par rapport à, je suis en train de chercher un de ces livres-là qui s'appelait Pascal Garnier, ou des livres plus courts déjà et plus plus léger dans le fond, ça peut paraître plus assommant, mais après c'est je pense que c'est aussi il tire un peu vers le haut son écriture. Enfin pourtant il en a écrit plein d'autres après, hein, c'est Où neige à Pondichéry, enfin, et c'est alors il est peut-être long, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ces critiques par rapport aux autres ouvrages qu'il a pu faire avant. Là on est à peu près sur 400 pages. Je pense que c'est peut-être pour ça ces critiques, mais les mots sont pas non plus t'as pas besoin de sortir le dictionnaire ou un traducteur pour comprendre. Ouais, moi je trouve que c'est plus c'est un langage qui est fleuri, qui est un peu soutenu, mais pas inaccessible. Après c'est pas un livre pour ados, c'est pas un livre que quelqu'un va, enfin tu lis pas ce livre par hasard. C'est pas hormis qu'il soit magnifique, parce que là c'est une édition de chez Zulma, donc ça donne envie. C'est pas, tu vas pas le lire comme d'autres livres qu'il a pu écrire de façon légère, mais quand même il a toujours une écriture un peu soignée, hein.
Il est très complet cet homme, il est dramaturge, historien d'art, il est peintre aussi, il a fait des expositions un peu partout en France, également au Maroc, à Marrakech je vois. Sous le pseudonyme de Hugo Horst, il anime depuis 83 la collection de poésie WH aux éditions du Marché. Il dirige la revue annuelle de littérature et de réflexion Apulée qu'il a créée aux éditions Zulma. Je sais pas si vous connaissez, voilà, qui s'attache à défendre l'idée de liberté. Bien sûr, ces œuvres sont traduites en plein de langues, l'anglais, l'espagnol, portugais, italien, polonais, croate, ukrainien, serbe, allemand, turc, grec, catalan, japonais et tamoul. Ouais, c'est un bel auteur qui vit en France, je crois, maintenant, à vérifier, mais il me semble.
Et là, sur la, j'étais en train de rechercher, mais je retrouverai pas, je suis trop lente et sans lunettes aujourd'hui. Sur la rentrée littéraire, il ressort un livre, justement, sur les esprits et la sorcellerie. Donc, c'est quand même, je pense, un sujet sur lequel il a écrit sur tout ce qui était un peu spirituel, justement, en amour. Il a fait une petite nouvelle, des petits récits sur l'état amoureux. sur justement la magie qu'il y a tout autour. Et là, il y avait celui dont je vous ai parlé, Théorie de la vilaine petite fille, qui est sur le spiritisme et sur la rentrée littéraire. Alors, j'ai pas encore pu le lire ni l'acquérir, mais le 18 août est sorti son dernier ouvrage qu'il me tarde de lire.
Alors on le présentera peut-être pour notre émission Rentrée littéraire. Ces deux petites filles Fox qui créent un jeu sur le spiritisme, c'est ça, et qui en fait au final les dépasse.
Oui, ils se laissent totalement dépasser par ça, notamment une qui ressent tout, et c'est pas vraiment en créant un jeu, elle entendait des choses, elle voyait des choses, et elles vont être la naissance de la médiumité, du spiritisme, mais aussi avec tous les travers que ça peut avoir, hein, les 10 heures de bonne aventure qui le font sur juste pour escroquer les gens, les charlatans, enfin voilà, c'est okay. Non, c'est vraiment un documentaire, mais je sais pas comment dire, romancé.
D'accord. Ouais. La médiumité.
La médiumité, ouais, je crois que c'est le mot, hein.
D'accord,
je crois
très
que ça
bien.
Existe.
On est là pour apprendre des mots avec toi, Valérie.
Ouais, c'est ça. Des mots comme canicie, lilial, stétoreux, égorant, épigone. C'est les mots les plus compliqués.
Bien là, les mots difficiles de ton livre, quand même.
C'était ça. Mais c'est très, il y avait aussi furibonderie, méjugé. Enfin, voilà, c'est pas non plus inaccessible.
Il me faut 3 mois et demi pour lire le livre de Valérie.
Non, parce que c'est pris dans une phrase, donc il faut aussi.
C'est pour ça que c'est un livre d'été.
Voilà.
Et oui, c'est ça. Tu nous liras un petit passage tout à l'heure ou maintenant, comme tu veux.
Si vous voulez, on peut faire un petit passage au hasard, Balthazar.
Ça serait bien de lire des livres, de lire des passages. Mm-hmm. J'en ai pas choisi pour mes livres non plus. Je vois que Pauline, se dit, tiens, c'est pas moi la prochaine. Je vais choisir des pages, mais si c'est à toi.
Ça aurait été chouette de tomber sur un passage de spiritisme, par exemple.
Je peux te laisser un peu le temps. Hein. On peut passer à l'autre livre et on le garde pour la fin.
Quand on fera la pause musicale, je chercherai un passage de spiritisme.
Voilà, après la pause musicale, on va chacun lire un passage de nos livres.
Très bonne idée.
Merci 6160. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est son nouveau surnom depuis que nous jouons au tennis ensemble.
Et depuis que j'ai remporté 6160, notre dernier match.
Ouais, peut-être ou pas. Bref, le 5 octobre 2017, il obtient le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Il s'agit d'un écrivain né à Nagasaki en 1954, naturalisé britannique en 1983. C'est en 1989 que paraît le plus célèbre de ses livres, Les Vestiges du Jour, qui a connu un grand succès en librairie et a été récompensé par le Booker Prize la même année. Il est adapté au cinéma par James Ivory en 1993 avec Anthony Hopkins dans le rôle du majordome James Stevens. Il s'agit de Kazuo Ishiguro pour Les Vestiges du Jour, Pauline.
Oui, alors c'est un livre fabuleux, je le dis direct, hein, comme ça c'est clair dès le début. Alors je vous avais déjà parlé il y a un moment de Kazuo Ishiguro pour Never Let Me Go. Alors la traduction en français est pourrie, donc j'ai gardé le titre original, qui était un livre un peu d'anticipation sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'était un livre génial déjà, et donc je me suis dit, j'ai envie de continuer à découvrir Ishiguro, et là on est dans un registre mais qui n'a rien à voir. Si je n'avais pas su que c'était le même auteur, jamais je l'aurais cru. Donc déjà, incroyable cet homme-là qui est capable d'écrire un livre presque de science-fiction, mais le terme s'adapte pas vraiment à Never Let Me Go, et donc Les Vestiges du Jour, qui est un livre sur l'histoire d'un majordome anglais. Alors on est entre le début du XXe siècle et les années 50. En fait, c'est ce majordome, donc il a connu les grands moments de la vie de majordome. Il était dans un domaine avec plein de serviteurs, hein, au service d'un homme très très prestigieux. Donc voilà, un gros personnel, et là il se retrouve donc dans les années 50. Un Américain a repris le domaine, il travaille avec 2-3 bonnes, voilà. Mais finalement là il se sent plus très à l'aise dans son rôle de majordome, parce que il a l'impression de ne pas contenter son patron. Ouais, je sais pas trop comment dire le terme,
il appelle
ça seigneurie tout le temps. Alors c'est vraiment au-delà du patron, et d'ailleurs c'est tout l'objet notamment du livre. Et donc voilà, il est dans cette situation et il reçoit une lettre de son ancienne gouvernante qui lui parle de sa vie aujourd'hui, qui semble un peu malheureuse, et il a l'impression de ressentir dans cette lettre qu'elle voudrait revenir, et ça l'arrange bien puisqu'il aurait besoin de quelqu'un. Et enfin, bref, ça l'arrange bien, mais il sait pas comment faire pour voilà, il n'est pas sûr qu'elle veuille revenir. Et à ce moment-là, son patron, on va dire, lui propose de lui prêter sa voiture pour se promener dans la campagne anglaise. Chose incroyable, lui, il n'a jamais vécu ça. Enfin, voilà, déjà, il est complètement effaré par cette proposition. Des vacances, une semaine avec la voiture de sa seigneurie. Enfin bon, il prend des heures et des heures pour trouver quel vêtement il va mettre pour la route, quel vêtement il va mettre pour l'auberge, quel vêtement. Enfin, bon, c'est très étonnant, c'est très rigolo. Bref, il en profite, il se dit, bah, c'est l'occasion d'aller voir cette Miss Perkins et de lui demander clairement si elle veut revenir à Darlington Hall. Et donc, il prend la route et il traverse toute la campagne anglaise. Donc, il nous raconte notamment son voyage, la découverte de la campagne, la découverte des gens de la campagne, des habitudes en dehors de Darlington Hall, qu'il découvre complètement. Pour lui, c'est et puis en plus on le prend un peu pour un lord quand il se promène, parce que finalement il est bien habillé, il parle très bien, etc. Il est très,
il est cultivé,
voilà. Et il en profite aussi pour revenir sur ses belles années voilà, en tant que majordome. C'est un livre où il se passe pas grand chose mais qui aborde un million de thèmes, c'est incroyable. Alors toute cette réflexion qui est tout le long du livre sur ce que c'est qu'un bon majordome, un grand majordome, et on est quasiment sur de la philosophie, le fait d'être loyal, la grandeur, qu'est-ce que c'est. Enfin, il se questionne beaucoup. Il y a la découverte de l'Angleterre, de cette période-là, de sa population, il y a aussi de la politique, beaucoup de politique, parce que donc on commence avant la Seconde Guerre mondiale où sa seigneurie, son patron, reçoit beaucoup d'hommes politiques pour discuter du traité de Versailles notamment, et sur ce qu'on est en train de faire aux Allemands, puis la guerre, puis l'après-guerre, etc. Donc il y a des thèmes ultra vastes, il y a des moments rigolos, il y a des moments touchants, et alors il y a, et c'est très étonnant parce que à aucun moment je pense qu'il ne parle de ses sentiments, ce Stevens, pas une fois, je pense qu'il nous dit je suis heureux, je suis malheureux, je suis joyeux. Si je reprenais le livre, et pourtant il y a un fond d'histoire sentimentale. Voilà.
C'est un livre, on en discutait hors antenne, qui est classé dans les romans d'amour.
Oui.
Donc c'est tellement sous-entendu l'amour que ça en est prégnant.
Oui,
finalement.
C'est incroyable parce que effectivement je pense que à aucun moment il n'en parle, et pourtant on le ressent et on a envie de lui dire accepte le fait que tu puisses ressentir des choses pour toi, parce que donc c'est ça aussi un des thèmes du livre, c'est le fait d'être voué totalement corps et âme, c'est-à-dire d'oublier totalement sa propre vie et de ne penser qu'à la vie de
du
ce
maître.
Concert. Voilà. Il y a même un moment, tu vois, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, sa seigneurie, son patron lui demande de licencier un des employés parce qu'il est juif. À aucun moment, il ne se pose la moindre question sur
l'éthique de le faire ou pas.
Est-ce que il le fait, un point, c'est tout, et il ne nous dit pas je ressens de la gêne, je ressens de la honte, parce que de toute façon il se refuse à ressentir quoi que ce soit, il est sous les ordres de quelqu'un, et voilà. Enfin bon, et c'est assez incroyable ce côté roman d'amour qui n'en est pas un, parce que je ne vous dirai pas que c'est un roman d'amour. On a l'impression, alors pour ceux qui aiment Downton Abbey, on retrouve cette ambiance, voilà, de anglaise, cette ambiance de service. C'est extrêmement étonnant ce talent qu'a Ishiguro, et je l'avais retrouvé aussi dans Never Let Me Go. C'est un roman d'anticipation, mais à aucun moment on ne ressentait le fait que c'était entre guillemets de la science-fiction. Et ben là il y a la même chose avec ce côté romantique, sentimental. À aucun moment on ne le dit, mais c'est là et c'est clair. Ce Steven, il est ultra touchant, il est étonnant, il a des réflexions passionnantes. Enfin, c'est un livre fabuleux. Vous pouvez vous y jeter les yeux fermés. C'est un excellent livre.
Je commence à comprendre pourquoi, avec tes explications, il est influencé par Marcel Proust. Ça se ressent dans ce que tu es en train d'expliquer, j'ai l'impression.
Peut-être. Alors, je ne connais pas assez bien Marcel Proust pour voir son influence sur Ishiguro, mais...
Mais sur le fait qu'il ne se passe rien, sur la lenteur, oui. Sur la longueur de...
Oui, oui, je vois ce genre de choses, ok.
Voilà.
Ça veut dire que Marcel Proust est chiant.
Ouais, oui, mais...
Alors non, peut-être certains diraient que c'est un livre chiant, effectivement. C'est un livre qui nous accompagne. C'est pas un livre où on attend que les choses se passent. C'est un livre qu'on n'a pas envie d'arrêter parce que on a envie un peu de vivre avec lui.
Peut-être qu'il mérite d'être décortiqué, justement, lu doucement pour bien appréhender. Oui. Comme tu dis, c'est complet, t'as plein de sujets.
Et, oui. Et pourtant, il y a aucun suspense. On ne se pose pas vraiment la question de savoir si cette Madame Perkins va revenir. C'est pas le sujet du livre. Mais on a envie d'être avec eux. On est content de rouvrir son livre et de se retrouver dans cet univers.
C'est écrit à la première personne ?
Oui.
Voilà, parce qu'il a écrit tous ses livres à la première personne, à l'exception du Géant enfoui en 2015. Alors, quand il a reçu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre, l'Académie suédoise a estimé qu'Ishiguro est un écrivain, alors je cite, qui, dans des romans d'une grande force émotionnelle, a révélé les abîmes que dissimule notre conviction illusoire d'être connecté au monde.
Ah oui !
Ah oui. C'est ça. Donc il a été influencé par Kafka aussi, par Dostoïevski, par Jane Austen pour cet homme donc qui est. Alors c'est marrant, il est parti du Japon assez jeune. Alors je vais retrouver en 1960 parce que son père est venu travailler en tant que chercheur du National Institute of Oceanography et donc il pensait repartir au Japon, sa famille, il a fait sa scolarité primaire dans le Surrey et ses parents qui pensaient rester que temporairement en Angleterre a préparé l'enfant à poursuivre le reste de son existence au Japon, un retour qui se fera jamais finalement, il est resté au Japon et donc chez lui il parlait que japonais. Et il a appris l'anglais à l'école, il parlait que japonais chez lui, il a écrit tous ses romans en langue anglaise au final.
Bon, là, on le ressent, hein, on ne doute pas à aucun moment qu'il est anglais. Baigné dans un univers japonais.
D'accord, merci Pauline. Donc on choisira un extrait aussi pendant la pause musicale.
Oui.
Tu nous proposeras après. Valérie, je t'ai vu farfouiller dans ton livre, tu en as trouvé un
ou
on attend aussi ? Allez, vas-y. Bah,
comme tu veux ou sinon. Comme tu veux.
Vas-y, oui, vas-y, allez, c'est le moment.
C'est ça, tu veux que je lise pour que tu puisses boire tranquillement.
C'est ça, montez.
Alors, où est-ce que c'était ? Donc là, on est sur le... C'est pas juste pour situer le...
Voilà, donc on revient sur Haddad. Hein,
on est sur Hubert Haddad, sur la théorie de la vilaine petite fille, donc la naissance du spiritisme et de la médiumnité aux États-Unis. Donc là, on est sur 19e siècle et on est... Donc la jeune fille Kate a perdu sa sœur. Et donc elle se retrouve donc à New York et elle accepte, elle travaille en tant que médium du coup, elle accepte finalement de travailler pour un riche homme de Wall Street avec qui elle va partager sa vie ensuite, donc c'est Charles Livermore. Perdu dans une cabale de cygnes, sa rencontre avec Kate Fox, un an après la disparition d'Estelle, lui avait paru de bon augure. Cette jeune femme avait posé sur lui le regard de l'au-delà. Il avait couru en vain les médiums de New York, Boston ou Rochester. Tous trahissaient un prosaïsme et même une vulgarité d'âme incompatible avec ses exigences. Les charlatans parmi eux, facilement repérables, se targuaient à la fois de dons, de médiumnité et de magnétiseurs, un Janus au cou tordu. Les authentiques médiums, il avait eu le temps de l'apprendre, n'étaient que des incesseurs passifs, de simples courroies de transmission. Beaucoup se recrutaient chez les laveuses de cadavres ou les vachers incultes. Assurément, les plus aptes à annihiler en eux conscience et volonté. Il lui était toutefois impossible de concevoir une communication avec l'au-delà par le biais d'un déséquilibré ou de quelques filous ou d'un débile en extase. Outre sa réputation, Kate l'avait immédiatement séduit par sa qualité de présence, une enfantine simplicité et un charme gracile si proche du fond du souvenir d'Estelle. Livermore avait une conscience assez aiguë de son état nerveux, mais sa mélancolie lui était un refuge. Et il lui importait peu que les asiles d'aliénés regorgeassent à ce jour davantage de spiritualistes que de syphilitiques. Pendant des années, deux ou trois soirs par semaine, dans la chambre où Estelle avait rendu l'âme, les séances se perpétuèrent, toutes portes et fenêtres closes. En état de transe, devant un guéridon bien en vue de son hôte, Kate avait toute l'attitude pour procéder aux invocations d'usage, écrire à main nue ou par le biais d'une tablette roulante. À la 43e séance, entre le lit à baldaquin et le miroir d'une armoire où se reflétait la flamme immobile d'une unique chandelle, Livermore aperçut un halo auquel il ne put donner de nom. Le phénomène s'amplifia aux séances qui suivirent, sans manifestation sonore. Et quand les premiers raps se firent entendre, il ne douta plus du succès de l'expérience, mais dans sa soif de certitude. Il imposa à Kate Fox toutes sortes de précautions et de contrôles, lui liant les deux poignets et maintenant lui-même ses pieds nus entre ses paumes. Voilà, c'est le début donc de cet homme qui est financier, qui est donc un grand cartésien. Il a quand même été jusqu'à 43 séances pour entrer en contact avec l'au-delà. Et après, donc il y a un détail de comment les séances s'amplifient et les résultats concrets des passations entre la terre et les terres, enfin et l'au-delà se font.
Un charme gracile si proche du souvenir d'Estelle. Magnifique.
Magnifique. Non, mais ouais, c'est très j'adore. Beau. Il y a quelques mots, des fois, qui sont un peu sur lesquels on accroche, mais ça passe très bien. C'est très, très beau.
Je crois que Pauline est prête aussi. Non, pas du tout.
Si, je peux être prête. J'ai trouvé un passage, oui, yes. Pourquoi pas. Il est peut-être un peu long, c'est la question que je me posais. Je vais me lancer.
Non, mais vas-y, on a le temps.
En fait, là, Steven se retrouve, il n'a pas trouvé d'auberge sur son trajet. Il se retrouve hébergé par une famille qui invite tout le village pour voir ce gentleman incroyable qui se retrouve chez eux. Donc lui, il est un peu piégé parce que tout le monde croit qu'il est un gentleman et il n'ose pas dire que c'est pas le cas. Et donc, quelqu'un dit, c'est vrai ce que dit Harry, on peut reconnaître un véritable gentleman d'info qui est simplement paré de beaux habits. Vous-même, par exemple, monsieur, ce n'est pas seulement la coupe de vos vêtements, ni même votre élégante façon de parler, il y a quelque chose d'autre qui révèle en vous le gentleman. Difficile de mettre le doigt dessus, mais ça saute aux yeux. De nouveau, les différents bruits approbateurs s'élevèrent autour de la table. Le docteur Carlyle ne devrait plus être long maintenant, monsieur. Intervint Mrs. Taylor. Vous aurez plaisir à lui parler. Le docteur Carlyle aussi, il a ce truc-là, dit Mr. Taylor. Il l'a, c'est un vrai monsieur, lui. Monsieur Morgan, qui n'avait pas dit grand-chose depuis son arrivée, se pencha et me dit « À votre avis, monsieur, de quoi s'agit-il ? Peut-être que quelqu'un qui a ce truc-là est mieux placé pour en parler. On est tous là à parler des gens qui l'ont et de ceux qui ne l'ont pas, et on n'est pas plus capable pour autant de savoir de quoi on parle. Peut-être que vous pourriez éclairer un peu notre lanterne, monsieur. » Le silence se fit autour de la table et je sentis que tous les visages se tournaient vers moi. Je toussai légèrement et dis « Ce n'est guère à moi de me prononcer sur des qualités dont je suis peut-être, mais pas nécessairement doté. Cependant, en ce qui concerne cette question en particulier, on a dans l'idée que la qualité dont il s'agit se verrait utilement définie par le terme de dignité. » C'est son grand terme, la dignité.
Ouais,
c'est
beau
tout à
aussi.
Fait ça, c'est la définition du bon majordome. Il est digne.
Oui, il est digne. Anthony Hopkins dans le rôle, ça doit être formidable.
Et oui, j'imagine. Ça m'a donné envie de le voir.
Il faudra regarder. Je sais pas qui. Je l'ai dit qu'il a réalisé, mais je ne le connaissais
même
pas.
Même physiquement, il a quelque chose de ce Monsieur Stevens. On l'imagine tout à fait comme ça.
Tu veux parler? Non, Claire lève la main, mais c'est qu'elle a le soleil en face. On l'a pas dit, on est en direct du bar L'Osmose à Mende. On remercie Serge qui nous accueille encore pour faire cette émission à L'Osmose. N'hésitez pas à y aller. C'est un bar super sympa. Allez, je vais vous présenter maintenant un roman de 2020 qui va nous emmener dans l'est du Montana, dans les Bull Mountains. C'est Joe Wilkins, ses montagnes à jamais. Alors Joe Wilkins est né et a grandi au nord des Bull Mountains dans l'est du Montana. Alors c'est l'auteur de plusieurs recueils de poésie et d'un récit sur son enfance et son adolescence qui est son premier roman. Et c'est justement celui-là que je vais vous présenter en 2020, ses montagnes à jamais, qui se déroule donc dans les Bull Mountains, édité en France chez Gallmeister. Alors on va changer pour une fois, je vais vous parler un peu de la maison d'édition pour commencer.
Ce qui mérite
et surtout que... par rapport à ce livre, cette maison d'édition emblématique, qui a choisi de donner la voix par le prisme de ce courant littéraire qui est le nature writing à des auteurs méconnus aspirant à mettre en valeur la région dans laquelle ils vivent. Donc c'est quand même formidable comme idée. D'ailleurs, alors ce sera vérifié, mais il est bien possible que Gallmeister ait couvert avec l'ensemble de ses publications la totalité des États américains. Sur ce que j'ai pu lire, il faudra le vérifier. Alors Joe Wilkins fait partie de ces nouveaux auteurs de nature writing. Alors au-delà des descriptions qu'on va retrouver qui sont quand même formidables de ces montagnes du Montana, l'auteur met en scène une intrigue qui tourne autour de ces miliciens bien décidés à s'émanciper des carcans que leur impose un gouvernement et des autorités qu'ils ne reconnaissent plus. Alors, oublier des politiques démocrates qui ne comptent que sur leurs terres qu'ils ne peuvent pas administrer comme ils l'entendent, sur leurs fusils et la chasse, sur le white power et la lutte contre le gouvernement fédéral forcément mauvais. Donc, vous l'avez compris, c'est le récit de l'Amérique profonde qui a élu Trump, de ces fermiers qui vivent avec les mêmes préoccupations que leurs ancêtres, sans laisser place au changement, au progrès. Alors, pour autant, quand on lit le livre, on a l'impression de se retrouver un peu dans les années 50. Voilà, c'est dans des territoires ruraux perdus. On est un peu perdu, on voit ces milices, mais on pense pas forcément à Trump. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il avait écrit en 2020, on commence à faire le rapport. Alors, chaque chapitre est tiré d'un nom d'un personnage de l'histoire qui s'y rapporte. Alors, on a Verl, Gillian et Wendell. Et après, on a un chapitre sur deux autres personnages, Tavin et Roddy. Donc, on va se focaliser sur les trois premiers. Alors, l'histoire démarre avec Verl Newman, qui fuit, se cache dans ces montagnes et est recherché par la police. On va suivre son périple et surtout la folie qui commence à s'installer chez cet homme et qui a fui son nourriture, son vêtement adapté pour vivre dans ces montagnes, qui tient un journal à l'attention de son fils. Alors on va comprendre plus loin dans l'histoire que cette histoire s'est passée bien des années plus tôt et que Verl n'a pas survécu à sa fuite. Alors il était recherché parce qu'il a tué un garde-chasse qui était venu lui demander des comptes au sujet d'un loup qu'il a battu. Donc on est totalement sur ça, sur ces gens qui vivent sur ces montagnes, sur ces terres depuis des années, et tout d'un coup on vient leur dire, ben voilà, maintenant vous pouvez plus tuer les loups, vous pouvez plus poser des pièges partout, c'est des montagnes qui appartiennent à l'État, vous faites plus comme vous voulez, il n'y a pas assez de loups, etc. Et ces gens ne le supportent pas. Alors du coup, ce Verl est devenu une légende pour les miliciens du Montana, qui sont là depuis des générations et qui pensent que les montagnes leur appartiennent. C'est des milices séparatistes qui, d'après l'auteur, pullulent entre l'Idaho, le Wyoming, le Montana, sur tout cet espace-là. On a Gillian, donc aussi, c'est une femme qui travaille dans un lycée ou dans un collège, on ne sait pas trop. Comme c'est aux États-Unis, c'est décalé, donc je crois que c'est lycée, mais les lycées là-bas correspondent au collège, peut-être, chez nous, je ne sais pas.
Oui, il y a un petit décalage léger.
Je crois qu'il y a un décalage. Alors, c'est une genre de conseillère d'orientation qui, après, va devenir professeure. Et elle, c'est la femme du garde-chasse qui a été tuée bien des années plus tôt par Verl. Et qui vit avec sa fille unique Maddie, qui a du mal à se remettre de la perte de son mari et qui du coup a un petit penchant pour l'alcool. Gillian, c'est une représentante de l'administration, c'est une démocrate qui se voit en terre de mission avec ce que cela suppose d'empathie pour les gens du coin avec lesquels elle est en contact, mais aussi dans un même temps qui a un certain mépris à leur égard. Troisième personnage, Wendell, donc lui c'est un ouvrier agricole qui habite dans un mobil-home, qui travaille au rythme des demandes des exploitants des Bull Mountain. Au début du livre, on découvre qu'il a la garde de Rowdy, qui est le fils de sa cousine incarcérée. C'est un enfant à problème, certainement autiste, mutique, sauvage. Apparemment, vu ce qu'il a vécu avec sa mère, il parle pas, il grogne, il mange pas bien. Et au final, il va vivre avec cet oncle l'oncle qui va aimer ce petit gosse et qui va lui apprendre à poser des pièges, à s'occuper du bétail. Il va commencer à s'ouvrir en vivant dans ces montagnes avec cet oncle qui a rien, qui est dans un mobil-home, qui est plutôt crado, qui mange des tucs avec du beurre de cacahuète. Et il va commencer.
Dans le jugement, là, c'est pas bien.
Non, c'est par rapport au livre. Et on découvre au fil du livre que Wendell s'appelle Wendell Newman et qui finalement est le fils de Verl Newman qui a disparu bien des années plus tôt dans les montagnes. Donc il se retrouve à son insu lié par le sang à Gillian, le sang du garde-chasse qui est mort. Et également les destins sont liés aussi par deux hommes morts, par son père aussi, parce que son père était dans l'histoire. Donc c'est des histoires familiales dont ils peuvent pas s'affranchir et ils vont être amenés bien sûr à se rencontrer. Donc on voit chaque personnage, chaque chapitre c'est des personnages, et au fur et à mesure l'histoire se regroupe. Et il y a un catalyseur, c'est l'annonce de la première chasse au loup depuis 30 ans dans le Montana qui va amener justement toutes ces milices à venir en disant « nous on vient, on tue le loup, on s'en fiche, on l'annonce ». Et avec Verl comme légende, ils vont voir ce Newman et tout le monde va se retrouver au même moment, au même endroit. Et l'histoire va subitement s'accélérer. Alors je vous en dis pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup. Alors là où l'auteur est fort, il évite les personnages caricaturaux. Alors quand on entend ma présentation,
c'est cacahuètes et
voilà, c'est vraiment
caravane et tue un loup.
C'est vraiment des personnages caricaturaux, mais en fait, lui, il les rend imparfaits et donc attachants. Il arrive à par son écriture, par la façon dont il amène ses personnages à, voilà, à plutôt miser l'imperfection et les rendre attachants. Il évite le bucolisme aussi de ces montagnes. Il touche le lecteur, ouais. Alors, c'est un très beau livre qui permet de découvrir cette région grandiose des Blue Mountains que l'auteur dépeint avec une belle justesse vu qu'il y est né là-bas. Et donc, je vous invite fortement à le lire. Alors, je vais vous sélectionner un passage de Verle, donc, où on l'entend, ce Verle qui est dans les montagnes, de l'histoire qui s'est passée beaucoup plus tôt. Et donc, il parle des jours où il est en train de fuir. Donc là, on est au 12e jour. Ils sont même pas près d'ici. Ça fait des jours que je les ai semés et j'ai fait un tour pour revenir. Si tu veux savoir la foutue vérité, fiston, je suis pas loin de toi. Ça me fait sourire de penser à ça. J'ai pris l'habitude de dormir l'après-midi quand le soleil est rond et chaud, d'écrire tout ça le soir, de marcher la nuit et à l'aube quand il fait froid et que mon cœur bat et bat encore pour garder un peu de chaleur. Cet après-midi, j'ai pioncé comme un vieil ours et je roulais seulement pour me chauffer l'autre côté du soleil. Est-ce qu'il y a encore des ours dans les Blue Mountains? Je crois pas. Les types comme mon papy ont tué les loups et ont essayé de faire pareil avec les ours, mais ils se sont enfuis vers les rocheuses. Je crois bien que c'est moi le dernier vieil ours dans ces montagnes. Ce soir à l'est, le ciel est bleu foncé comme les yeux de ta mère. D'un côté, il y a le bleu du crépuscule. De l'autre, les montagnes sont rouges et dorées dans le soleil couchant au loin. Tu savais qu'il y avait toute une palette de couleurs entre le rouge et le doré? Moi, je l'avais jamais su. Ou du moins, je l'ai su, mais je l'avais oublié. En tout cas, je vois une douzaine de nuances entre les deux maintenant. Etc, etc. Donc lui, il annonce tous ces échappatoires. Et après, on revient dans l'histoire des autres personnages. C'est vraiment un très beau livre.
Tu avais lu Légende de Dothan, j'imagine?
Je ne sais plus.
Harrison Fan.
Oui, j'ai dû le lire, oui. Oui, oui.
Parce que c'est très. T'as l'impression d'être dans le même.
Ah, ben c'est de la nature Whiter. Hein.
Oui, c'est oui, ça.
Mais il a été comparé à Harrison, ce qui, à mon avis, est un peu trop, parce que Harrison, quand même, on ne se compare pas à Harrison après un premier roman.
Mais pourquoi pas?
Mais
si le premier roman est très bon, il n'y a pas de.
Pour l'univers, pour l'écriture.
C'est ça. Moi, justement, j'avais hésité à présenter Légende d'automne que j'ai relu cet été. Et voilà, ça aurait fait écho, oui. Quand tu as lu le passage, oui, ça faisait très ça.
Attention Pauline, il y a un piège, tu as 4 secondes pour répondre. Qui a lu cet été un roman de KPDP? 4, 3...
Elle est à ma droite.
Elle est à ta droite, bravo. Alors,
c'était pas facile, hein, bravo.
Une pour toutes de Jean-Laurent Del Socorro à l'École des loisirs. Alors une histoire hors du commun d'un personnage qui l'est tout autant et que l'on connaît peut-être pas parce que c'est une femme et que l'on a tendance en France et d'ailleurs ailleurs à oublier les personnages historiques féminins. Alors moi je me suis intéressé à ce personnage quand tu m'as dit que tu allais présenter ce livre et c'est une histoire complètement taré, quoi.
Dingue.
Ouais. C'est complètement dingue. Et donc, on va remercier Jean-Laurent Del Socorro d'en parler.
Oui.
De cette Julie Maupin qui est née en 1670, qui était une actrice, cantatrice française à l'épée bien aiguisée.
C'est ça. D'autant plus surprenant que ça se passe à l'époque de Louis XIV. Et donc il s'agit de cette Julie d'Aubigny, parce que oui c'est ça, Julie Maupin c'est son nom de mariage.
C'est son nom de mariage.
Voilà, elle naît d'Aubigny, sa mère est morte, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Elle est élevée par son père, qui vit donc dans les écuries royales, pas la grande, la petite apparemment, c'est important de le préciser, et qui, je ne sais pas pourquoi, on ne l'explique pas, mais bénéficie d'une éducation tout à fait, mais hors du commun pour l'époque. C'est-à-dire que les éducations étaient très genrées quand on en recevait une, et la sienne, pas du tout. Donc elle apprend à faire autant des choses de filles que de garçons, à savoir l'escrime.
Rappelle-nous l'époque.
1670.
Ouais, c'est énorme. Incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lu ce livre, qui est bon, un livre ado. J'en lis pas spécialement, hein. J'ai rien contre la littérature ado, mais là, je me suis dit, ah, celui-là, il faut pas que je le rate. Et voilà notre escrimeuse, qui en plus escrime en tenue donc de bretteuse, hein, puisque j'ai appris le vocabulaire. Elle s'habille, elle se met en pantalon. Voilà, dans la rue, on la prend pour un homme. Et donc cette femme est assez rapidement mariée dans le livre. Elle devient donc Julie Maupin et elle se débrouille pour envoyer son mari en province. Donc ça, c'est raconté à la fin. Ils expliquent un peu ce qui est romancé et ce qui est historique. C'est historique en fait. Elle s'est débarrassée de son mari parce qu'elle avait des contacts à la cour et donc on a trouvé une charge royale à son mari. Et donc voilà. Hop. Là, voilà, libre comme l'air.
Oui, parce qu'évidemment, le mariage n'était pas consenti.
C'était... Oui, elle, en fait, elle avait pas vraiment envie de se marier. Et puis quand elle a découvert l'homme, elle s'est dit, oh, bah, celui-là, il va pas m'en...
Oui.
Il va être, voilà, je vais être tranquille avec lui, donc à la limite, pourquoi pas.
Elle a accepté. Bon,
voilà. Donc un sacré caractère. Hein. Et puis, donc elle se met à escrimer. De,
on parle dans le micro.
Ah pardon. Dans les rues de Paris et surtout dans des bars, enfin dans des tripots, dans des troquets, des trucs un peu mal famés.
Et c'est pourquoi pour faire des duels pour gagner de l'argent.
Oui,
pour,
c'est ça. Puis elle, je pense qu'elle est un peu bravache, quoi. Oui, donc elle a un peu ce côté.
C'est ça. Avec son mari, elle s'habille en habit d'homme. Son mari, bien sûr, est habillé en habit d'homme et tout le monde va voir ça en disant oh, une femme qui fait de l'escrime.
Oui,
oui, c'est pour faire de l'argent, clairement.
Elle se donne un spectacle un peu. Okay. Et d'ailleurs, elle va en vivre. Donc dans un de ces tripots, là, elle rencontre son premier amant, apparemment un peu de temps avant le mariage, un certain Serran, et donc il sent, elle est contrainte de fuir Paris puisque, enfin pour une sacrée raison, parce que le lieutenant de l'araignée, donc le lieutenant de la police, l'arrête pour des faits très graves. Alors je sais pas, c'est plus que outrage aux bonnes mœurs, enfin, je sais plus exactement comment c'est qualifié. Mais en fait, il faut qu'elle parte, elle s'en va à Marseille. Et à Marseille, donc ils vivent de ça, quoi. Ils font des spectacles de
et donc elle s'est enfuie avec ce Serran.
Elle s'enfuit avec son Serran, ouais. Et il paraît, enfin apparemment ce serait vrai, dans les cafés souvent on l'interpellait en lui disant mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes une femme, parce que vous escrivez tellement bien, enfin vous êtes habillée comme possible. Un homme, voilà.
Elle avait une voix très grave aussi, elle était cantatrice.
Voilà. Et il paraît qu'elle aurait montré sa poitrine.
D'accord.
Voilà. Et apparemment ça a tellement fait de bruit dans la littérature qu'on pense que c'est vrai. Mmh. Voilà, donc vous voyez un peu le personnage. Et puis elle s'arrête pas à ça, effectivement, elle prend enfin elle commence à chanter un peu dans des petits dans des établissements à l'époque. Les choses n'étaient pas très catégorisées comme de nos jours. Hein. On pouvait boire et écouter une chanteuse. Elle prend des cours, hein, même plus tard dans sa vie auprès d'un professionnel. Elle devient une vraie chanteuse. Elle a une carrière à l'Opéra de Paris pendant des années, effectivement, avec sa voix très grave. Et puis elle est aussi connue parce que donc elle a des amants hommes et des amanteux, des femmes. Et notamment un célèbre épisode, je le raconte parce que je spoile pas vraiment, si vous tapez son nom dans Wikipédia, c'est un épisode qui va revenir systématiquement.
Oui, avec l'histoire de la nonne.
Voilà. Elle va
c'est énorme.
Donc elle se
Non, c'était pas une nonne, ça maîtresse. Ah,
donc elle contracte une relation amoureuse avec une femme dont j'ai oublié le nom. Et puis quand la famille de cette jeune fille se rend compte voilà de leur relation, s'empresse de l'emmurer dans un couvent et donc elle décide de délivrer sa copine. Et donc elle se porte elle-même novice, donc elle prend le voile, etc. Pendant une certaine semaine elle joue le jeu, et puis quand elle apprend qu'une nonne est enterrée, elle décide de mettre le feu, alors elle récupère le corps de la nonne enterrée, elle le met dans une chambre. Elle met le feu à la chambre, elle fait croire que c'est elle qui est d'accord, morte dans un incendie, et elle s'enfuit avec la nana, elle vit
incroyable. Une semaine.
Ouais, non,
elle est fabuleuse, c'est
incroyable. On se demande il y a un petit merlou là. Ouais.
Et elle est morte en 1707, elle est née en 1670 ou 1673, donc elle a vécu très peu de temps.
Oui. Ouais.
Elle a vécu 30 ans.
Ouais,
et dans ces 30 années,
elle a fait,
quoi. Oui, c'est incroyable. Ah ouais. Et elle a parcouru la France en plus. Oui. Elle a vécu donc à Paris, à Marseille et ailleurs en province. On ne sait pas toujours exactement où.
Oui, parce que où on trouve les traces de sa vie, comment ils reviennent.
Alors, il y a des choses, par exemple, en plus, elle a été condamnée deux fois à mort, deux fois graciée. Donc il y a des traces, par exemple, de ça, hein, oui. de ces judiciaires, de ces ennuis. Ouais. Après, il y a beaucoup aussi de gens qui ont relaté, hein, ce que cette femme a raconté.
Oui, dans les journaux, ça devait apparaître, ça. Voilà. une femme en pantalon.
Pour l'épisode de la nonne, elle met le feu à la chambre de sa maîtresse pour dire que sa maîtresse est morte, oui. Et comme ça, elle peut s'enfuir avec sa maîtresse. Voilà. Mais après, elle la laisse tomber, elle part autre part. Hein. Bon, elle a dû la gonfler au bout de 6 mois. Et hop, elle est partie d'autres projets.
Ah ouais, tout à fait. Et alors, ce qui est super chouette, donc dans ce livre, il y a de très beaux passages qui sont écrits en rime. C'est très facile à lire. Il y a un personnage, elle fait intervenir le personnage du diable, qui est son compagnon de route. Et bon, le diable, bon, il a un petit côté très sympathique. Enfin, il est pas toujours si affreux, quoi, ce diable. Donc ça, c'est marrant. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, là, ça va être mon extrait. C'est donc chaque scène d'escrime. Bon, il y a deux trois côtés techniques. On sait pas toujours trop bien de quoi il parle, mais c'est pas qu'une joute physique. Il y a chaque fois une joute oratoire.
Ah super.
Donc toujours quand elle se bagarre, en tout cas dans le livre avec ses adversaires, il y a voilà un échange rimé. Donc voilà, j'ai choisi un petit extrait. Les spectateurs s'esclavent tandis que les écuyers s'enfuient penauds. Donc là, elle se bat en plus contre trois hommes. Je fais une référence à leur maître en fureur. Donc je crois qu'elle vient d'en enlever deux. Cédez-moi la victoire, mon jeune chevalier, ou venez donc défendre votre honneur bafoué. Donc le dernier combattant dégaine sa rapière rutilante en une agressive guardia alta. Donc vous voyez là, on est un peu dans le vocabulaire vraiment de l'escrime. Pied gauche en avant, épée au-dessus de la tête et pointe bien tendue vers le haut. Vous m'avez irrité cette fois pour de bon. Affrontez maintenant la colère d'un dragon. Vous voyez, on imagine quand même assez bien le truc. Quoi.
Très théâtral, très.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mon adversaire vise ma tempe et tente une frappe qu'il appuie de toutes ses forces. J'esquive en reculant de telle sorte que nos lames se retrouvent en contact en garde longue. Vous vous trompez, monsieur. Ce n'est pas un dragon. Il a certes 10 griffes, mais ce n'est qu'un chaton. Mmh. Et là, la salle fait oh, 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 vous voyez. Donc c'est en fait toutes les scènes de combat sont comme ça, quoi. Méfiez-vous du chat. Il sait les règles tordre. Si vous l'énervez trop, ses crocs pourraient vous mordre. Voilà. Donc ça, je trouvais ça vraiment assez. C'était très plaisant à lire.
Voilà. Alors, il y a quand même eu plusieurs biographies sur ce personnage historique. Je sais même pas s'il n'y a pas eu un ou deux films, mais bon, ça devait être des téléfilms il y a quelques années.
J'ai vu ça là rapidement. Alors, j'ai pas regardé. Je pense qu'ils ont pas eu un succès fou ces films-là, mais en tout
non,
cas, oui,
c'est certainement. Ça reste, Alors, pour info, Jean-Laurent Del Socorro, il a obtenu plusieurs prix. Hein, le prix Elbalkin.net 2015 du meilleur roman fantasy pour Royaume de vent et de colère. Le prix Imaginal des bibliothécaires 2018 pour Boudica. Le prix Babelio littérature de l'imaginaire 2020 pour Je suis fille de rage et j'espère qu'il aura un prix pour ce livre.
Oui, c'est documenté, hein, c'est vraiment, il y a toutes les sources, hein, tu me parlais de, des voilà comment on sait que cette femme a fait tout ça, donc à la fin il donne toutes ses sources. Et puis il y a un effort d'écriture, hein, parce que donc il y a toutes ces joutes oratoires, et il y a aussi les scènes quand elle est cantatrice, quand elle chante sur scène, il est allé rechercher des extraits du livret qu'elle chantait, etc.
Dis adolescente, c'est quel âge? Adolescent, pardon.
Alors c'est la collection Medium Plus de l'école des loisirs, donc je crois que c'est à partir de 15 ans.
Oui, les fans de collège, non?
Ouais.
Oui, fans de collège. Ouais. Ouais.
Et pour un adulte en été, c'est très bien.
Ça a l'air génial.
On va le retrouver.
Oui, je trouve aussi.
Pauline, on va le retrouver au CDI. Hein.
Mais pourquoi pas, oui.
Ça donne bien envie.
Allez, on va rester à parler de féminisme, mais après une pause musicale. Et on vous retrouve après parce qu'on n'a plus de thé à boire, Valérie. Donc on
oui,
va
je...
Faire
alors
la
je
pause,
prends une infusion parce que ce thé, je pense, est en train de m'énerver un petit peu.
Allez, c'est parti.
حفوس حفوس وين دوينو إيران فتوح إيميك سيميك حفوس حفوس وين دوينو إيران فتوح I will take the train leave the sun for the rain I will calm down.
Allez, on est de retour. Je vous le disais avant la pause musicale, on va rester à parler de féminisme avec l'une des principales écrivaines modernistes du XXe siècle, née à Londres en 1882, Virginia Woolf, pour Une chambre à soi, Valérie.
Oui, alors je suis désolée, je fais l'écriture de ce... Enfin, je vous raconte cette histoire 4 ans trop tôt, en fait, puisque Virginia Woolf, elle avait prédit, elle avait dit, dans 100 ans, nous les femmes, on cessera d'être un sexe protégé. Donc ce sera normalement... Elle l'avait écrit en 28, donc je suis désolée, je
oui, fallait attendre un peu.
Mais j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Ce livre est incroyable. Alors, Ludo nous racontera pourquoi Madame est incroyable, pourquoi Virginia Woolf est incroyable. Mais le livre est assez fou parce que il m'a été hyper dur à lire. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. Pourtant, c'est une petite nouvelle en fait, une sorte de parcours initiatique où elle raconte en fait. Tout un cheminement à travers une université, des appartements, tout ça, pour arriver jusqu'à la chambre à soi, qui est en fait son soi intérieur, hein. C'est très métaphorique, mais justement, c'est à la fois, en fait, elle raconte, par exemple, quand elle arrive dans cette université, le chemin. On imagine une université américaine avec ses grandes allées, tout ça. Et comment est-ce qu'elle n'a pas le droit déjà d'être là, parce qu'elle a une condition de femme? Comment elle n'a pas le droit de prendre part au débat, parce qu'elle est une femme? Comment elle n'a pas le droit de marcher sur la pelouse, parce qu'elle est une femme? Et tout ça. Et en fait, elle dénonce, c'est un livre ultra féminin, en fait, une sorte de plaidoyer, enfin, MeToo avant l'heure, hein, puisqu'il est ancien. Et en même temps, elle le fait avec une dérision incroyable. Pourtant, elle a pas l'air marrante, elle a pas l'air rigolote.
Oui, elle a pas l'air très fun.
Non, ça avait pas l'air. Enfin, et en même temps, elle le dit et on. Je sais pas. Ouais, la façon dont elle l'écrit, la façon dont elle raconte ce rejet du sexe masculin pour sa condition de femme, c'est plein d'humour, enfin un peu de malice, un peu de donc on s'attache à elle, puis on a envie de détester les hommes du coup parce que c'est hyper féministe, mais en même temps elle nous incite pas à le faire. Elle nous incite pas à le faire. Elle dit juste on va y arriver en fait, petit à petit, on va progresser ces fameux 100 ans. Alors je pense qu'il en faudra peut-être un peu plus, mais voilà. Et c'est tout ça. C'est un petit chemin initiatique, un petit parcours initiatique entre l'université, une maison, un restaurant pour arriver jusque dans la chambre à soi. Voilà, qui décrit l'infériorité de la femme, mais par ses mots, elle, comme on sait qu'elle est très attachée justement à cette équité qu'elle souhaiterait entre hommes et femmes, on en arrive à se dire, bon, on peut y arriver, c'est sans sans jugement, mais avec un peu de jugement. Et elle disait, enfin, elle reprenait ce que Colombe de Gouges avait dit en disant, si une femme peut monter à l'échafaud, elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. Et c'est un peu ce qu'on ressent dans tout ça. Et en fait, c'est une sorte de visionnaire, Virginia Woolf, quand elle a écrit Une chambre à soi. C'est comme si elle aurait pu l'écrire aujourd'hui pour nous dire, femme, voilà, on a une condition de femme qui est un fait quand on est femme, mais vous devez accéder aux mêmes choses, et c'est sans voilà,
sans lutte, sans
lutter, mais pas avec des armes,
pas un combat.
Oui, voilà. C'est une sorte de combat, mais d'intelligence. Oui. Et moi, ça m'a un peu scotché, mais du coup, c'était surprenant parce que je l'ai pris un peu au hasard, Balthazar. C'est quand j'ai pris Les Gens d'automne, en fait, j'ai attrapé deux livres dans la bibliothèque. Je savais même pas que j'avais ça, et je l'avais jamais lu. Et donc, j'ai dit, bah oui, il est petit, je le prends. Voilà, et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à m'y mettre parce que je pense que j'étais pas préparée déjà à un livre MeToo aussi engagé, aussi féministe. Et en fait, c'est parfait parce que justement c'est son combat à elle, mais qui est pour toutes les femmes, mais en fait qui est un combat sans être un combat. Il faudrait trouver un synonyme du mot combat parce qu'il n'y a pas la connotation belliqueuse en fait dans son écriture. Donc c'était un petit plaisir. Mais tu vas nous parler de Virginia Woolf, je pense.
Oui, et de ce livre aussi, pour préciser, en fait, c'est un essai qui se base sur plusieurs conférences qu'elle a données en octobre 1928 dans deux collèges pour femmes de Cambridge, Newham College et Grayton College. Donc c'est voilà, ça. C'est basé sur des conférences qu'elle a données. Elle dégage deux éléments indispensables pour permettre à une femme d'écrire. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le premier, c'est avoir une chambre à soi qu'elle peut fermer à clé afin de pouvoir écrire sans être dérangée par les membres de sa famille. Et le deuxième, disposer de 500 livres de rente lui permettant de vivre sans souci. Elle rappelle à ce titre que les femmes ne pouvaient pas posséder l'argent qu'elles gagnaient et déclare, à l'époque où les femmes se voient accorder le droit de vote, de ces deux choses, le vote ou l'argent, l'argent, je l'avoue, me semble la chose beaucoup plus importante.
Ouais.
Voilà.
Elle est pleine de malice, enfin, elle est incroyable.
Elle est incroyable, oui. Et donc ce livre, il est considéré comme tenant une place très importante dans l'histoire du féminisme. Il figure à la 69e place sur la liste des 100 livres du siècle. Publié par Le Monde en 99, donc à avoir. Et le Guardian la classe en 2016 parmi les 100 meilleurs livres de non-fiction. C'est vraiment un livre qui a fait date dans l'écriture, de par ce qu'elle dit, de par son style, etc. Ça a toujours été une féministe, elle a toujours été connue pour ça. Elle a eu une fin tragique, hein. Elle a eu des problèmes, elle est morte noyée.
Suicide, je crois.
Elle s'est suicidée, morte noyée, âge de 59 ans. Voilà, mais c'est une écrivain formidable.
Ouais. Non, c'est vraiment.
Voilà,
et c'est une découverte sans être une découverte parce qu'on la connaissait en superficie, mais là, c'est à la lecture, c'est bluffant.
Voilà. Merci Valérie.
Avec plaisir.
Elle est une rêverie adolescente lumineuse et poétique, une héroïne en quête de liberté. Pauline Lulabi de Jean-Marie Gustave.
Je crois que c'est exactement Le Clésio. Ce que je voulais dire.
Et ouais, c'est dommage.
Tu viens de me squeezer mon intro.
Prix Nobel de littérature en 2008. Allez, une petite question pour Saint Breton. Enfin, il a des origines bretonnes.
Oui.
Le Clésio. Qu'est-ce que ça signifie en breton?
Alors là, tu vas me l'apprendre. Le ciel.
Les enclos.
Les enclos.
Voilà.
Oh, ça fait pas rêver autant que le labaille.
Non, c'est sûr. Allez, je te laisse le présenter.
Tu peux redire. Je voulais faire une chronique très très courte parce que finalement c'est un livre où il se passe rien. Encore une fois, je dois aimer les livres où il ne se passe pas grand chose.
En fait, après les livres sur les génocides, t'es passé sur les livres où il se passe rien.
Exactement, tout à fait, parce que en fait, effectivement, c'est juste une rêverie, un moment de liberté dans la vie d'une petite fille qui est en bord de mer. Elle est séparée de son père qui est loin à l'étranger. On imagine qu'il peut être diplomate ou militaire ou on sait pas exactement où elle est. Il y a des moments qui m'ont fait penser à peut-être la Normandie, mais il y a cette maison grecque qui apparaît dans le livre. Enfin bon. Voilà. On ne sait ni quel âge elle a, ni où elle est, ni qui vraiment elle est, mais c'est une petite fille qui un jour décide qu'elle ne veut plus aller à l'école. L'école, c'est un endroit où elle est enfermée, où il y a des règles, etc. Elle a besoin de liberté. Et donc, elle va se promener en bord de mer. Et c'est sa promenade, c'est son escapade, et elle va rencontrer des personnages, des humains, hein, quelques certains inquiétants, un petit garçon, un vagabond, etc. Et elle va rencontrer, et ça, c'est ça que je crois qui m'a beaucoup touchée, elle va vraiment rencontrer la mer, elle va rencontrer la, le sable, elle va rencontrer les rochers. On a l'impression qu'elle, que tout ça, c'est des personnages. C'est un tout petit livre, certains le qualifieraient peut-être de nouvelle, ça se trouve c'est même extrait d'un recueil de nouvelles. Ça va très vite, mais c'est un petit moment de rêve. On imagine vraiment cette petite fille qui saute de rocher en rocher, qui va sur la plage, qui découvre une maison abandonnée. Elle est sur un chemin de, alors qu'il qualifie de contrebandier. Voilà, elle se promène pour avoir un moment de liberté, pour se couper de l'école qui est finalement toute sa vie. On a l'impression que quand elle parle de sa vie d'avant, parce que bon, c'est une escapade qui dure quelques jours, peut-être même une seule journée, elle parle de sa vie d'avant à l'école, où elle était enfermée, où il y avait des règles, et là elle est libre, et elle sent la mer sur elle, et elle découvre seule, enfin bref, c'est un très joli moment. Ça va très vite, c'est un livre très court, mais c'est un petit moment de rêve, un petit moment de poésie. C'est une écriture très douce, très simple, très agréable, et c'est joli. C'est une liberté de petite fille très chouette, très très chouette. Ça m'a beaucoup plu. J'irai pas plus loin parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à raconter. Tout est dans l'écriture, tout est dans le ressenti. Ouais.
Oui, Jean-Marc Gustave Le Glésio, donc Le Clésio, pardon, qui a eu très vite un succès en 63, prix Renaudot pour Le Procès Verbal. Il a une cinquantaine d'œuvres à son actif et donc il a eu le prix Nobel de littérature en 2008 en tant qu'écrivain de nouveau départ, de l'aventure poétique et de l'extase sensuelle, explorateur d'une humanité au-delà et en dessous de la civilisation régnante.
Oui, c'est bien résumé.
C'est ça.
C'est très doux, très bien.
D'accord, on le conseille à tout le monde alors.
Oui, 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 tout public.
Allez, merci. Si vous entendez du bruit, ça y est, on est à l'heure du repas, donc les gens commencent à arriver à l'Osmose.
Fabuleux.
À Amande. On va parler maintenant. Alors c'est bien parce qu'il y a du monde, il y a la fête, donc on va parler un peu de fête. On va parler de Beat Generation. Alors j'ai une question pour vous les filles. Hop, je vais remettre le micro de Claire qui l'avait posé. Savez-vous quel est le premier roman de Jack Kerouac et quel est le premier roman de William Burroughs? Vous ne savez pas.
Bah, la route, ouais, mais
c'est les hippopotames, oui, dans la baignoire.
Ne triche pas. Eh bien, c'est le même, enfin presque, parce que
les
Kerouac avait.
Dans la piscine.
Eh ben, alors,
c'est ça, dans la piscine.
C'est le même, presque, parce que Kerouac avait écrit un livre en 1942, édité il y a peu de temps. Mais bon, ça marche pas, parce que. Enfin, mon introduction marche pas si c'est vrai, donc je vais reposer la question. Savez-vous quel est le premier roman de Jack Kerouac et de William Burroughs?
Non.
Eh bien, c'est le même. C'est le même écrit à quatre mains en 1945 alors que les deux jeunes gens n'avaient pas encore publié, que personne hors de leur entourage les connaissait. Un livre qui s'intitule « Les hippopotames ont bouilli vif dans leur piscine » qui a été édité en 2008 seulement. Tiens donc, 63 ans après, pourquoi? Ah, un manuscrit trouvé, on veut se faire de l'argent, le premier livre de Kerouac de Burroughs. Eh non, c'est pas ça. Ah, un premier livre écrit dans leur jeunesse, Kerouac 22 ans, Burroughs 30 ans, sans le moindre intérêt narratif, littéraire, sans style. Eh non, c'est pas ça non plus.
Mais bon sang, mais alors pourquoi? Comment?
Eh oui, pourquoi? Car Lucien Carr, ami des deux écrivains et membre de la Beat Generation, est mort le 28 janvier 2005 et que les deux amis, morts eux bien avant, avaient tenu leur promesse de ne pas publier cet ouvrage tant que Carr était encore en vie. Mais pourquoi me diriez-vous? J'y viens, chers amis. Eh bien, dans Les Hippopotames et Les Hippopotames ont bouilli vif dans leur piscine, les deux futurs grands écrivains racontent sous forme romanesque une histoire vraie, l'histoire d'un meurtre dont ils furent des protagonistes secondaires, ni victimes ni meurtriers, mais des témoins indirects placés un temps en arrestation. Et pendant plus de 60 ans, le texte resta inédit, tout d'abord faute d'avoir trouvé un éditeur, puis, comme dirait Kerouac lors d'interviews, oublié sous les lames d'un parquet, promis surtout à ne pas être publié. Et pourquoi donc? Je tourne ma page. Si j'y arrive. Car le livre relate les jours précédents, puis sur les trois derniers courts chapitres, le meurtre de David Camerer par Lucien Carr.
Ah, extra!
Ouais, alors ce n'est pas du tout un roman noir, c'est vraiment du Burroughs, du Kerouac. On navigue d'appartement en appartement à New York, de bar en bar, d'alcool, de joint, de morphine, de recherche de petits boulots à un navire qui va partir traverser l'Atlantique, d'aventures amoureuses, homosexuelles, hétérosexuelles, bisexuelles, d'amis, de faux amis, d'embrouilles, de bohèmes. En compagnie de Gianni, qui est Todd Eddie Parker, la première femme de Kerouac, de Will Denison, qui est Burroughs, de Mike Rico, qui est Kerouac, de Phil Tourian, qui est Lucien Carr, et de Ramsey Allen, qui est David Kammerer. Et j'en parle bien d'autres, parce que voilà, c'est des personnages principaux, il y a toute une pléiade d'autres personnages. Alors c'est vraiment un reportage du New York de l'époque, et qui, selon Kerouac, d'un fait divers qui va marquer pour lui le début de la Beat Generation. D'ailleurs, dans plusieurs ouvrages de lui, il revient dessus. C'est vraiment quelque chose qui l'a marqué. Allen Ginsberg, qui n'était pas là à l'époque et qui fait partie, ce grand poète new-yorkais qui fait partie de la Beat Generation, on a aussi parlé dans des poèmes à lui. Ça, c'est une histoire qui les a marqués. Pour explication sur l'histoire, le conflit entre Lucien Carr et David Kammerer trouve son origine dès la rencontre de ce Lucien qui a alors 14 ans, David qui en a 25 à Saint-Louis dans l'état du Missouri en 36. Une amitié entre le jeune homme et l'adolescent dure, mais alors David, qui fut tué après, est homosexuel, Lucien bisexuel, il refuse ses avances, et donc ils se connaissent depuis cette époque-là, ça perdure, exaspéré après une soirée et une nuit passée à boire, ivre, Lucien assassine David de deux coups de couteau dans la poitrine dans le parc Riverside. Au matin, il leste le corps de Pierre, le jette dans l'Hudson avant d'aller voir Burroughs, où il lui raconte son histoire. Burroughs lui dit, mais prends un grand avocat, ta famille est riche, ça va bien se passer. Il part, il va voir Kerouac qui lui dit, mais tiens, on va aller voir des musées, des peintures et on va boire. Et le surlendemain, il se dénonce à la police. Il va être condamné à 10 ans, il en fera que 2, il sortira. De l'époque, l'Amérique puritaine, le pauvre petit-fils de bonne famille qui se fait harceler pendant des années, qui se défend. Alors en plus, il y a des. Après, on explique qu'il est quand même bisexuel, qu'il avait lui aussi des aventures et que c'était pas aussi simple que ça l'histoire. Et donc voilà la base de l'histoire, mais les 90% du livre, c'est juste l'histoire entre ces cinq amis-là, et ça finit sur ce meurtre. Et bon, c'est pas encore les grands écrivains que ça allait le devenir au niveau littéraire du terme, mais on retrouve quand même du Burroughs, du Kerouac, et c'est formidable. C'est vraiment l'Amérique de ces années 40-45, fin de guerre, où on s'est laissé aller, on cherchait des bateaux pour travailler sur la navire marchande pour partir. Ils veulent partir à Paris et après partir vivre rive gauche. C'est la bohème new-yorkaise de l'époque, et c'est un film formidable à lire.
C'est un film aussi ?
C'est un livre, pardon, formidable à lire. Je sais pas si, je crois qu'il en fait un film. Et pour anecdote, le titre du roman, donc, a pour origine un incendie survenu dans un zoo à Londres, relaté par une radio. Ça prend trois lignes dans l'histoire. Ils écoutent une radio où ils disent, ben voilà, il y a eu un incendie, des hippopotames ont bouilli vif dans leur piscine. Et ça donne le titre du livre. Voilà.
Ouais. Ceci dit, c'est marquant, on comprend pourquoi ils l'ont choisi.
Oui, c'est ça. Donc voilà, je vous le conseille.
C'est vraiment le même titre en Amérique, enfin en Angleterre.
Oui, c'est ça. C'est ça. Kerouac a voulu l'éditer plusieurs fois dans sa vie en disant c'est vraiment un livre formidable, il faut l'éditer. Ils avaient fait cette promesse. Donc il en parlait dans les interviews, mais bien après avoir été connu, mais il l'a jamais édité, il l'a jamais publié, il a tenu sa promesse et ils ont attendu, ses ayants droit, attendu la mort de Lucien Carr pour enfin la sortir.
Ça, c'est assez génial, ce.
Ouais. Voilà. Est-ce que tu as parlé de Nietzsche un peu, Valérie?
J'aurais pu parler de Nietzsche parce que c'était la première fois qu'un livre écrit par Onfray me mettait pas en colère. Donc
c'est vrai.
Non, c'était une petite BD que j'avais lue sur les vacances. Pareil, panne de lecture, petite bibliothèque du petit village et une bibliothèque fabuleuse. Donc sur l'île d'Aix, donc village d'Aix. Je les salue s'ils écoutent.
Et certainement.
Certainement, parce que je vais leur envoyer le podcast. Et non, ils ont une bibliothèque vraiment scotchante. Et comme j'avais peu de temps, j'ai pris pas mal de romans graphiques. Et j'ai pris Nietzsche, écrit par Michel Onfray. Et alors, par contre,
Maximilien Leroy.
Voilà, merci pour lui. Et ça raconte vraiment la vie de Nietzsche. Et c'est.
enfin, comment dire, ça pourrait être un fait qui ne serait pas marquant si c'était pas Onfray qui avait écrit, c'est-à-dire qu'il l'a écrit sans aucun parti pris et j'avais pas vu hein, que c'était lui qui était l'auteur.
Oui, ça m'a étonné quand j'ai vu ça, je dis tiens, c'est pas vraiment c'est, le
c'est
style
pas,
de Valérie.
Non, c'est pas mon style, normalement, surtout qu'il me met vraiment très très en colère et là non, en fait, là il relate, en fait, il a fait une biographie, en fait, il a mis un roman graphique, la biographie de Nietzsche. Alors c'est assez, même si on connaissait un peu sa vie, c'est assez sombre, mais c'est mis, voilà, c'est très beau. Ça permet d'appréhender. Je me dis par exemple pour des étudiants qui vont faire de la philo ou des choses comme ça, parce qu'apparemment il y a eu d'autres de cette maison d'édition, il y a eu d'autres philosophes qui ont été mis en avant.
Vulgarisé.
Enfin, et du coup ça, voilà, ça permet d'avoir une première appréhension et peut-être de mieux comprendre après pourquoi. Pourquoi Nietzsche pensait ça? Pourquoi Schopenhauer pensait ça? Enfin, voilà, de découvrir un peu leur vie, comment ils sont arrivés là, la place de la mère, du père, ce qu'ils ont vécu, la noirceur de l'époque, peut justifier ceci, cela. Et ça fait du bien, des petits romans graphiques.
C'est très
ça.
Bien.
Voilà.
Nietzsche qui est un très beau philosophe.
Qui est plutôt pas mal.
Ouais,
je préfère largement à Onfray. Oui. Michel, si tu m'écoutes, c'est vrai.
Ah, c'est pas le même niveau. Un petit mot, Pauline, pour terminer. Tu avais lu un autre
Marco
livre
Valdo
aussi.
Marco Valdo de ouais. Italo Calvino. Alors, un petit mot, c'est que c'est un livre très étonnant, très rigolo. Marco Valdo,
tu nous fais toutes les fins de phrases en haut, c'est génial.
Ah ouais.
Et ouais, elle fait du slam en 2022.
Oui, naturellement, Valdo, je rime quand je m'exprime.
C'est la dernière rubrique de chaque émission maintenant, c'est le slam de Pauline.
Et oui, Marco Valdo, c'est un Italien fauché qui a 6 enfants. Il vit sous une mansarde et il lui arrive des aventures absolument improbables parce qu'il vit donc en plein milieu d'une grande ville. Et lui, ce qu'il aime, c'est la nature. Alors, il va trouver à l'arrêt de tramway un champignon et il va se dire, je vais le manger. Et il partage son idée avec tout le monde. Et le lendemain, ils se retrouvent tous à l'hôpital parce que c'était des mauvais champignons. Il va se dire, tiens, on va aller à la pêche avec mes enfants. Il va trouver un bassin tout beau, magnifique, d'un bleu éclatant avec des truites fabuleuses. Il va toutes les pêcher. Elles se laissent attraper hyper facilement. Ils vont les manger. Le lendemain, un genre de brigade de la santé arrive en disant, mais qu'est-ce que c'est? Vous ne mangez pas ces truites. C'est des truites infectées. Enfin, bon, bref. Voilà.
C'est génial.
C'est très rigolo. C'est complètement farfelu, ce livre. C'est plein de petits épisodes. On pourrait les lire même pas dans l'ordre. Voilà, c'est un personnage un peu charlot à qui il arrive des petites choses improbables et en plus il élève ses enfants dans ce truc là donc on sent que ses enfants vont tous devenir des Marco Valdo en puissance et c'est rigolo, c'est facile à lire et c'est assez étonnant, voilà, à la fois dans l'écriture et dans les histoires. C'est un livre qui m'a fait rire et qui... C'est un style que j'avais jamais lu jusque-là et c'est à découvrir juste pour son originalité, je pense. Au moins pour
t'as
ça.
T'as dû au moins rire à chaque.
Ouais. Alors, c'est complètement. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein, c'est toujours gros comme une maison. Mais c'est bien tourné et on s'amuse bien. C'est très sympa. C'est
mignon.
Ben merci beaucoup, Pauline. Merci Valérie. On a perdu Claire. Claire a faim.
Je suis là. J'écoute avec attention toutes les belles choses que vous racontez.
Allez, on va t'écouter. Donc c'est cette première émission de septembre. En octobre, nous allons partir vers où?
Qu'est-ce qu'on? Donc ouais, plutôt fin septembre. On pourrait tenter une émission sur la rentrée littéraire. Faut que je fasse speeder mon libraire.
Allez, on va faire speeder notre libraire et on parlera de librairie dans quelques émissions. On aura une petite belle nouvelle à vous annoncer. Merci beaucoup et comme dirait l'autre,
au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.